VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 8 juillet 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. D'abord les titres.
Au Burkina Faso, Isaac Zida a promis à 1 million de manifestants hier à Ouagadougou de tenir ferme face à l'armée et à l'ex-majorité qui réclame sa démission.
Monsieur Zida rentrait de Côte d'Ivoire où plusieurs officiers de l'armée ont été inculpés en rapport avec la crise post-électorale de 2010-2011.
Au Nigeria, 25 personnes ont été tuées et 32 blessées hier à Zaria, dans le nord du pays. Boko Haram encore pointé du doigt.
À Vienne, un diplomate occidental avertit que les négociations sur le nucléaire iranien ne peuvent pas continuer indéfiniment.
De son côté, le Premier ministre italien a averti Athènes que le sommet de dimanche sera la dernière réunion que l'Union européenne aura sur la crise financière grecque.
La protection de l'environnement n'est plus un choix, mais un devoir, a déclaré hier le pape François au troisième jour de sa tournée en Amérique latine. Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Un millier de manifestants ont accueilli mardi à son retour d'Abidjan le Premier ministre du Burkina Faso, Isaac Zida, qui s'est engagé à tenir ferme face à l'armée et à l'ex-majorité qui réclame sa démission, a constaté l'AFP. Isaac Zida avait démenti des rumeurs de démission lundi alors qu'il s'apprêtait à s'envoler pour Abidjan, où il a notamment rencontré le président ivoirien Alassane Ouattara durant un voyage officiel d'un jour et demi. Des partis politiques de l'ancienne majorité pro-Compaoré ont réclamé mardi le départ du Premier ministre que demande aussi l'armée, notamment le régiment de sécurité présidentiel RSP, avec lequel M. Zida est en crise ouverte depuis une semaine.
En Côte d'Ivoire, plusieurs officiers de l'armée ivoirienne ont été inculpés pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Une vingtaine d'inculpations qui comprennent des ex-militaires fidèles à l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, mais aussi d'anciens rebelles partisans du président Alassane Ouattara. La Fédération internationale des droits de l'homme se félicite que ces inculpations marquent un rééquilibrage des poursuites et donnent un nouvel élan aux enquêtes en cours. Claire Morin-Gibourg a joint Florent Gel, responsable de la division Afrique à la FIDH.
Les juges d'instruction qui sont en charge du dossier de la crise post-électorale au sein de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction ont inculpé ces derniers mois une vingtaine de responsables pro-FRCI, pro-Ouattara, dont des chefs importants, puisque Losseni Fofana, qui était le responsable FRCI de l'offensive pendant la conquête de l'Ouest, et notamment dans la ville de Djouékoué, a été inculpé, comme d'autres hauts responsables des FRCI de cette zone. Et ces inculpations, associées aussi à des inculpations de pro-Gbagbo, démontrent deux choses fondamentales. La première chose, c'est que les enquêtes avancent en Côte d'Ivoire et le rééquilibrage des poursuites est en cours. Les rééquilibrages, évidemment, entre la centaine de pro-Gbagbo qui sont inculpés encore à ce jour dans les dossiers de la crise post-électorale et les FRCI qui, jusqu'à maintenant, étaient une ou deux personnes qui étaient inculpées. Donc là, on assiste avec cette vague d'inculpations à un véritable rééquilibrage qui laisse penser qu'aujourd'hui, la justice ivoirienne a accompli sa mue et est en train d'avancer de façon indifférenciée, de façon beaucoup plus objective que par le passé et donc de façon indépendante.
Florent Gel, responsable de la division Afrique à la FIDH.
Au Nigeria, au moins 25 personnes, dont un enfant de 2 ans, ont été tuées et 32 blessées mardi dans l'explosion d'une bombe attribuée aux islamistes de Boko Haram dans des bureaux de l'administration locale à Zaria, dans le nord du pays. L'engin explosif, très vraisemblablement porté par un kamikaze, selon le gouverneur de l'État de Kaduna, a explosé au moment où des instituteurs et d'autres fonctionnaires faisaient la queue pour subir des contrôles d'identité, selon des témoins. Le même jour, un attentat suicide commis par une femme près d'un poste militaire dans le nord-est a fait 4 morts, ont déclaré des témoins.
Au Kenya, des combattants lourdement armés ont attaqué mardi un convoi d'autobus et leur escorte militaire dans la région de Lamu, située au nord de la côte kényane, à proximité de la frontière avec la Somalie, a appris de sources concordantes l'AFP. L'attaque, qui n'a apparemment pas fait de victimes, a eu lieu près de la ville de Mpeketoni, déjà visée l'an dernier par un raid sanglant des militants islamistes somaliens Shebab affiliés à Al-Qaïda.
L'état d'urgence décrété en Tunisie après l'attentat sanglant contre un hôtel ne doit pas conduire le gouvernement à supprimer les libertés et les droits acquis depuis la révolution 2011, a déclaré hier Human Rights Watch dans un communiqué. Dans une interview télévisée mardi, le premier ministre Habib Essid a affirmé que l'état d'urgence, et je cite, « nous permet de mieux maîtriser la situation et de soutenir l'armée nationale sur le terrain afin d'avoir plus de chances d'éradiquer le terrorisme ».
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Vienne, un diplomate occidental a précisé hier que les négociations sur le nucléaire iranien ne peuvent pas durer ad vitam aeternam et qu'elles ont été prolongées pour la dernière fois. Selon le diplomate en question, il est très difficile de voir pourquoi et comment nous pouvons continuer comme ça. Soit ça marche dans les prochaines 48 heures, soit ça ne marche pas. Après avoir raté mardi leur précédente date butoir, les négociateurs du P5+1 et de l'Iran se sont donnés maintenant jusqu'à vendredi pour arriver à un accord définitif. Mais la délégation iranienne estime qu'il n'y a pas de date fixe et la porte-parole américaine, Murray Harf, a souligné que la qualité de l'accord préoccupe beaucoup plus que l'horloge.
Ici à Washington, les sénateurs républicains ont exprimé hier leur frustration face aux efforts des États-Unis contre le groupe État islamique et ils n'ont pas ménagé le patron du Pentagone, Ash Carter, et le général Martin Dempsey, chef d'état-major interarmes, lors d'audiences publiques hier au Congrès. Le président de la commission sénatoriale de la défense, John McCain, a fustigé également ce qu'il a appelé les illusions du président Barack Obama sur la stratégie qu'il avait réitérée la veille au Pentagone. « Nous ne gagnons pas et quand vous ne gagnez pas en guerre, vous perdez », s'est écrit M. McCain. Pour sa part, M. Carter a assuré que les États-Unis infligeront une défaite durable aux groupes djihadistes en Irak et en Syrie, par leurs efforts multiformes.
La Grèce semble avoir obtenu une dernière chance pour mettre au point un plan de réforme économique avant le sommet des 28 pays membres de l'Union européenne dimanche. En annonçant ce qu'il a appelé un sommet décisif, le Premier ministre italien Matteo Renzi a dit à la presse hier que la balle, je cite, est dans le camp des Grecs. Dimanche prochain sera la dernière réunion sur la Grèce. Les leaders de la zone euro, réunis d'urgence hier à Bruxelles, étaient furieux contre le Premier ministre grec Alexis Tsipras, qui a annoncé des améliorations dans sa requête d'aide financière, mais n'a soumis aucun document écrit.
Le pape François a déclaré mardi que la protection de l'environnement n'était plus un choix mais un devoir au troisième jour de sa visite en Afrique du Sud, où il a à nouveau plaidé pour une plus grande justice sociale permettant à tous un accès aux ressources. Selon l'agence Reuters, le souverain pontife qui s'exprimait devant des indigènes de la forêt amazonienne a décliné les thèmes écologiques contenu dans son encyclique publié le mois dernier, Henri Francisque.
Le pape a renouvelé son appel en faveur de la protection de la région amazonienne, un écosystème qu'il a qualifié de vital pour l'ensemble de la planète. Il a expliqué qu'il souhaitait que son encyclique puisse influencer l'issue de la réunion sur le climat prévue au mois de décembre à Paris. Au mois de septembre, le souverain pontife se rendra aux États-Unis et s'exprimera devant les Nations Unies pour délivrer un message identique. Une chose est certaine, nous ne pouvons plus tourner le dos à la réalité, tourner le dos à nos frères et nos sœurs, à notre mère la Terre, a-t-il affirmé lors d'un discours à l'Université catholique pontificale de Quito. Reprenant plusieurs passages de son encyclique, le pape François a expliqué qu'il existait un très solide consensus scientifique sur le réchauffement climatique et sur ses causes humaines. Le choix de l'Équateur pour prononcer ce discours n'est pas anodin. Le pays est largement dépendant des revenus pétroliers et miniers, les activités qui menacent l'une des plus riches biodiversités de la planète, y compris dans les îles Galapagos.
et a signalé que le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a ajouté 27 sites à sa liste pour 2015, y compris la mission Alamo à San Antonio au Texas, ici aux États-Unis.
À présent, la Minute Éco avec Camille Grosdidier.
La compagnie textile chinoise C&H Garment Company va installer une usine au Sénégal, signale Jeune Afrique. L'unité industrielle devrait ouvrir ses portes en 2016 à Diamniadio. Le groupe devrait construire une unité de confection de vêtements au Sénégal pour un investissement de près de 25 millions de dollars. Les premiers containers devraient sortir de l'usine pour être expédiés vers les États-Unis et dans le reste du monde en juillet 2016. C&H Garment Company est déjà présente au Rwanda. Plusieurs marques mondiales vont accompagner le tout premier match du championnat nord-américain de basketball, la NBA, en Afrique. La rencontre est prévue en Afrique du Sud, à Johannesburg. Elle opposera une équipe africaine, Team Africa, et une équipe mondiale, Team World. Parmi les parrains de la rencontre, le groupe de télécommunications Econet Global Limited, le géant américain de l'automobile Ford, les chaussures et vêtements de sport Nike et la compagnie aérienne sud-africaine South African Airways. Selon un projet soumis au président nigérian Muhammadu Buhari par ses conseillers, une réforme en profondeur du secteur pétrolier aiderait le Nigeria à payer quelque 20 milliards de dollars d'arriérés. Le mois dernier, le chef de l'État nigérian a limogé tout le conseil d'administration de la Nigerian Petroleum Corporation. Le secteur pétrolier est accusé d'être l'un des plus gangrénés par la corruption. Premier producteur d'or noir en Afrique, le Nigeria tire l'essentiel de ses recettes du pétrole, qui représente 90% des exportations. Mais une bonne partie de ses ressources semble s'évaporer.
Les sports maintenant avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Tennis, tournoi de Wimbledon.
Oui, Novak Djokovic s'est sorti hier dans la douleur du piège tendu par le Sud-Africain Kevin Anderson en huitième de finale. Mené de 7 à rien, le tenant du titre avait vu son match interrompu lundi par la nuit alors qu'il venait juste d'égaliser à 2-7 partout. Au final, le numéro 1 mondial serbe l'emporte 6-7, 6-7, 6-1, 6-4, 7-5. Chez les dames, Maria Sharapova a rallié les demi-finales de Wimbledon pour la première fois depuis 2011, après un succès plus que laborieux. La Russe bat dans la douleur l'Américaine Coco Vandeweghe, 47e joueuse mondiale en 3-7, 6-2, 6-7, 6-2. Il y aura donc une demi-finale de rêve entre Serena Williams et Maria Sharapova. L'Américaine, numéro 1 mondial, a eu aussi beaucoup de mal pour s'imposer contre la Bélarusse Victoria Azarenka, ex-numéro 1 mondial. Le score, 3-6, 6-2, 6-3.
Football, rubrique transfert.
L'emblématique capitaine du Real de Madrid, Iker Casillas, a reçu une offre du club portugais du FC Porto. Et il en est enchanté, a déclaré l'agent du joueur au quotidien sportif espagnol Marca. Selon la presse, le Real de Madrid essaie de recruter le jeune gardien espagnol de Manchester United, David De Gea, pour rajeunir le club en remplacement de Casillas. Si le départ de Casillas est confirmé, il s'agirait de l'un des transferts les plus marquants de la saison. D'autant qu'après 25 années passées au Real, le portier de 34 ans a répété ces derniers mois son envie de finir sa carrière au sein du club, où il dispose d'un contrat en or s'achevant en 2017. En 25 ans, dont 16 saisons professionnelles, Iker Casillas accumule un large palmarès, 3 Ligues des Champions pour un total de 19 titres en club.
Quatrième étape du Tour de France.
L'Allemand Tony Martin a remporté ce mardi à Cambrai une étape avec plusieurs secteurs pavés de Paris-Roubaix. Il endosse du même coup le maillot jaune. Le favori, le Britannique Chris Froome, n'a rien cédé à ses adversaires.
Floyd Mayweather n'a plus de ceinture WBO.
Le boxeur qui a conquis ce titre face à Manny Pacquiao n'a pas versé à la World Boxing Organization le montant dû après sa victoire. C'est ce qu'a annoncé la WBO. L'Américain vainqueur au point d'un très décevant combat du siècle le 2 mai dernier à Las Vegas a empoché quelque 220 millions de dollars selon les estimations. Or, le règlement de la WBO veut que les boxeurs reversent 3% de leur bourse pour un combat avec titre mondial en jeu, avec un plafond de 200 000 dollars. Le règlement prévoit aussi qu'un champion WBO dans une catégorie ne puisse être détenteur d'un autre titre mondial dans une autre catégorie. Or, Mayweather détient les ceintures WBA et WBC des super welter.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Burundi, l'Union panafricaine des avocats et le Forum des organisations de la société civile est-africaine ont saisi la Cour de justice est-africaine. Ils souhaitent que cette juridiction se prononce sur la légalité de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle du Burundi qui a déclaré le 5 mai que le président Pierre Nkurunziza pouvait briguer un troisième mandat. On écoute Maître Dieudonné Bashirahi Shize, qui est le vice-président de l'East African Law Society, une organisation des barreaux des pays de l'Afrique de l'Est.
La Cour est-africaine des droits de l'homme a été faite par une organisation sous-régionale qui rassemble toutes les organisations de la société civile qui s'appelle IASO, et avec l'appui du PALU, qui est l'organisation panafricaine des avocats. Ils ont décidé de saisir la Cour après avoir constaté que les conséquences de la crise burundaise affectent finalement toute la région. Il y a des réfugiés qui sont en train de se diriger dans les pays de l'East Africa Community. Il y a un risque de confrontation armée qui commence à se faire sentir. Et chaque État, en principe, qui entre dans une famille ou qui entre dans une communauté, s'engage à respecter scrupuleusement le traité. Or, le traité établissant la communauté est-africaine stipule notamment que l'État parti doit respecter les droits fondamentaux, c'est-à-dire le respect du principe de la légalité, la bonne gouvernance et les principes démocratiques, notamment même l'alternance démocratique. Les accords d'Arusha étaient clairs que la troisième candidature n'est pas possible, d'où ils ont été obligés de saisir la Cour, d'une part pour faire déclarer la décision de la CENI d'accepter la candidature comme illégale, tout comme l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui finalement n'a été arraché que par la pression et la violence.
Est-ce que la Cour de justice est-africaine a bien juridiction sur cette question ?
Tout à fait. Chaque citoyen, chaque organisation de la communauté est-africaine, en vertu de l'article 30 du traité, peut saisir la Cour lorsqu'il y a violation des droits fondamentaux du droit de l'homme, lorsqu'il y a violation des principes démocratiques. Au sein de l'IASO, il y a des organisations de la société civile burundaise et ils ont le droit de saisir la Cour pour dire si oui ou non telle décision qui a été prise par un État ou par une organisation du gouvernement, la Cour est habilitée à dire si oui ou non cette décision viole le traité établissant la communauté est-africaine. Si jamais la Cour constate qu'effectivement cette décision viole le traité, alors la Cour demande à l'État de reconsidérer la décision, faute de quoi il y a des sanctions prévues par le traité, lesquelles sanctions sont en principe mises en application par le secrétaire général de la communauté des États de l'Afrique de l'Est.
C'était Maître Dieudonné Bashirahi Shize, vice-président de l'East African Law Society. Au Burkina Faso, le président de la transition ne s'est toujours pas prononcé sur le maintien ou non du premier ministre Isaac Zida à la tête du gouvernement. Le RSP et le reste de l'armée demandent sa démission depuis la semaine dernière. Mais lundi, M. Zida a déclaré à la presse à Ouagadougou qu'il n'avait pas l'intention de démissionner. Et que disent les partis politiques membres de la charte de la transition ? Bagasikoura a joint Ablassé Ouédraogo, président du parti Le Faso Autrement.
Si les forces de défense et de sécurité de notre pays, c'est-à-dire l'armée nationale, décident de se retirer de l'organe exécutif, nous demanderons donc au président du Faso, président de la transition, d'appliquer la charte qui lui donne donc la prérogative de nommer le premier ministre et le gouvernement. Nous disons tout simplement qu'au niveau des politiques, ce qui est très important, c'est que, quelle que soit la personne qui va conduire notre pays dans les 94 prochaines journées qui restent avant l'élection, c'est que la date du 11 octobre 2015...
La date des élections.
la date des élections couplées législatives et présidentielles ne soit pas touchée.
Il y a certains, comme Guy Hervé Cam du Balai Citoyen, qui disent qu'il faut l'accord de tous les signataires de la charte avant que le président puisse démettre son premier ministre.
Non, mais il faut demander à M. Cam d'aller lire la charte. Il n'a qu'à aller lire, tout est écrit dedans. Il y a une partie qui traite du chef de l'État, il y a une partie qui traite du gouvernement. Et ce que j'ai dit, c'est l'article 14 qui traite du gouvernement, qui dit que le président de la transition nomme le premier ministre et le gouvernement. Alors, si on nomme, on n'a pas besoin d'autre chose pour la démission.
Et Zida a dit qu'il n'y avait pas de crise au sein du gouvernement. Comment vous avez apprécié cela?
Non, je pense qu'il a raison de dire qu'il n'y a pas une crise au sein du gouvernement. La crise qui existe, c'est entre lui, Premier ministre, et le RSP. C'est vrai, il n'y a pas de crise au sein du gouvernement, mais il y a une crise entre lui et le RSP. Et personne ne peut fermer les yeux dessus. Nous vivons cette crise-là depuis le 30 décembre et c'est la troisième fois que ça se reproduit. Donc il y a quelque chose qui doit être fait.
Monsieur Ablassé Ouédraogo, président du parti Le Faso Autrement.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Côte d'Ivoire, bientôt le métro urbain pour désengorger la situation à Abidjan. Le démarrage des travaux est prévu pour 2017. Des précisions avec M. Gaoussou Touré, ministre ivoirien des Transports.
Il s'agit d'un moyen de transport ferroviaire rapide à mettre en place que nous appelons métro d'Abidjan et qui doit desservir les zones d'Anyama jusqu'à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en passant par les communes d'Abobo, d'Adjamé, du plateau de Trècheville et de Port-Boué sur une distance de 37,5 km.
Le train urbain, ça doit coûter cher, monsieur le ministre. Qui sont les partenaires de la Côte d'Ivoire et combien va coûter cet ouvrage?
Bon, jusqu'à présent, les coûts ne sont pas encore terminés. Nous sommes toujours en discussion avec les partenaires, mais il faut compter au minimum 1 milliard de dollars US, 850 milliards de francs CFA.
Alors pour ce projet, le gouvernement ivoirien ambitionne de casser définitivement la chaîne des embouteillages.
Bien sûr, parce qu'à Abidjan, c'est vrai que la circulation est presque impossible aujourd'hui, mais nous avons de grandes ambitions pour Abidjan, parce que pour résoudre l'épineux problème des embouteillages à Abidjan, il faut un système multimodal qui combine en même temps les secteurs routiers, lagunaires et ferroviaires. Au niveau du lagunaire, nous avons déjà libéralisé ce secteur et donné déjà des autorisations à 3 sociétés qui vont démarrer les activités à la fin de cette année.
On parle d'une collaboration entre Français et Chinois. Comment ça va se passer?
Bon, exact. Il y a un consortium de Coréens et de Français et de groupes français pour la réalisation de ce projet. Bon, il y a l'accord entre les parties. Bon, nous, on ne fait que constater ça et puis travailler avec le groupe Bouygues et Dansan.
Alors, au plan de la réalisation concrète sur le terrain, le métro sera-t-il aérien ou passera-t-il dans le sous-sol?
Non, 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 il ne passera pas par le sous-sol ni aérien, mais il passera sur les voies normales.
Alors, on peut s'attendre donc à un projet gigantesque qui sera à la pointe de la technologie.
Exact. Tout ce que nous avons vu réalisé par les deux groupes ont vraiment les capacités financières et techniques pour la réalisation. Et ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un projet en BOT que nous faisons parce que compte tenu du coût important, le modèle de financement que nous avons aujourd'hui au niveau du gouvernement, pour nous, le secteur privé est le moteur du développement économique. Donc, tout ce que le secteur privé peut financer, il faut le faire financer de telle sorte qu'on puisse consacrer les lignes classiques auprès des bailleurs de fonds, des institutions de Bretton Woods et de partenariats avec les différents pays sur les projets d'éducation, de santé et d'amélioration des conditions de vie des populations.
Monsieur Gaoussou Touré, ministre ivoirien des Transports, joint à Abidjan par Jean-Roger Bion.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
En République démocratique du Congo, la situation est devenue critique sur plusieurs sites à exploitation artisanale du Katanga. Plusieurs exploitants qui se plaignent de nombreuses tracasseries ont recours au creusage clandestin sur les sites à exploitation industrielle où, selon notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila, certains perdent la vie.
Depuis l'avènement du boom minier au Katanga, les creuseurs venus du quatre coins du pays ont envahi plusieurs sites d'exploitation industrielle et artisanale à la recherche de minerais riches. Les creuseurs ont été plusieurs fois délocalisés sur certains sites miniers appartenant à la GKMIN et par la suite relocalisés par le gouvernement sur d'autres sites attribués à l'exploitation artisanale avec objectif la création des coopératives et structures d'encadrement afin d'étendre vers la petite mine pour créer une classe moyenne congolaise. Malgré les bonnes théories du gouvernement, la réalité du terrain et tout autre en ce qui concerne la situation de creuseurs, où c'est le plus fort, tant militaire que civil, prétendant d'être proche de certaines autorités qui définissent la loi à leur manière. C'est le cas à Lupoto, comme nous dit un creuseur qui garde l'anonymat de peur des représailles.
La situation de nous creuseurs à Lupoto est vraiment compliquée du fait que depuis l'entrée de M. Djuma, on est en train de nous couper 30% de nos produits pour donner à M. Djuma et 15% pour la maison des Indiens chinois. Alors on ne se retrouve pas. On a déjà dit non au service de l'État. La CESCAM, qui devait au moins encadrer les creuseurs et les coopératives, n'a pas l'accès dans le site.
C'est la peur et la terreur qui a influencé plusieurs creuseurs à se réfugier sur d'autres sites à exploitation industrielle où ils pénètrent dans la clandestinité. Le creusage des minerais est une activité importante car plus de 25 millions de Congolais vivent de ça. Mais l'application du règlement minier connaît un sérieux problème. Maître Timothée Mbouya, défenseur des droits de l'homme, nous en parle.
Malheureusement, depuis la publication du code minier et du règlement minier, on se rend compte que les creuseurs sont délaissés pour compte, ils sont abandonnés par le gouvernement. Il faut aussi dire que les creuseurs aujourd'hui sont en difficulté parce que le gouvernement ne sait pas définir des sites bien appropriés à l'exploitation minière artisanale. Et cela engendre des conséquences graves. On les tire parfois à bout portant.
À ce jour, plusieurs creuseurs et négociants attendent les paiements de leurs factures de minerais livrées à la Générale des Carrières et des Mines depuis 2006, bloqués par l'actuel comité d'administration à cause du détournement interne. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
L'entreprise californienne Ube a demandé à la police de Johannesburg, en Afrique du Sud, de protéger ses conducteurs et passagers victimes d'intimidation et de harcèlement de la part des chauffeurs de taxi. Un reportage de Gillian Parker, repris ici par Nathalie Barge.
Plusieurs utilisateurs ont rapporté avoir été forcés à prendre des taxis à Johannesburg à la place des voitures qu'ils avaient choisies via l'application de smartphone Uber. Les menaces verbales et le harcèlement des chauffeurs de taxi ne font que confirmer pourquoi les gens choisissent de plus en plus des alternatives sûres et fiables comme Uber, déclare l'entreprise dans un communiqué en ligne. Karine Abrahams, responsable d'une guest house à Johannesburg, dit que plusieurs hommes l'ont suivie alors qu'elle tentait d'entrer dans sa voiture Uber dans le quartier des affaires.
En fait, ils m'ont carrément chassé. Ils ont dit « Notre combat est avec les membres de Uber, pas avec vous. Vous ne pouvez pas entrer dans ce taxi Uber. » Je comprends leur point de vue, mais j'ai aussi le droit de choisir qui je veux pour voyager.
Des dizaines de chauffeurs de taxi ont protesté vendredi dernier devant les bureaux de Uber à Johannesburg, disant que l'entreprise en ligne fait couler leur business et exigeant que la même législation de licence leur soit appliquée. La société est également impliquée dans un différend de licence au Cap, où les responsables de la circulation ont mis en fourrière plus de 200 véhicules Uber. Les chauffeurs de taxi ont également protesté contre la société en janvier dernier. Cette querelle s'ajoute à une longue série d'altercations entre la société basée à San Francisco, les régulateurs et les rivaux dans plusieurs pays. Elle a été contrainte de suspendre son service Uber Pop en France, qui était très populaire, en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur la légalité du service. Les prix Uber sont si bas qu'ils défient toute concurrence, se plaint Petros Mlongo, chauffeur de taxi, estimant que la confrontation avec les conducteurs est la seule façon de régler le problème.
Quand il y a un problème, il faut en discuter ensemble pour le résoudre. Mais dans ce cas, avec qui voulez-vous discuter? Ils viennent et imposent leurs propres règles.
En 6 ans, Uber a amassé 41 milliards de dollars en proposant ses services dans 57 pays, en grande partie en raison de son habileté à contourner l'industrie du taxi étroitement réglementée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, vous étiez en compagnie d'Idriss Assedoudia et Dan Albertson. Bonne journée à l'écoute de VOA.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.